Frères et sœurs, nous avons prié, comme a dit Jonathan, pour ces moments. Ces moments, ils doivent nous servir à faire des progrès. Ces moments, ils doivent nous servir à apprendre, à connaître Christ, à avoir l'approbation divine. Vous savez qu'il y a 15 jours, nous avons abordé le sujet de la crainte de l'Éternel et je voudrais continuer ce sujet. Parce que je pense qu'il répond vraiment à un besoin. Beaucoup de chrétiens n'ont pas du tout la crainte de Dieu. C'est un sujet, il faut travailler à ce sujet. D'ailleurs, regardez dans Philippiens, au chapitre 2. C'est un commandement, c'est dans le Nouveau Testament. Philippiens, chapitre 2, verset 12. C'est dans un, il faut dire, en vérité, chaque fois que je lis un verset, on devrait lire le contexte. Ça vous permettrait de voir dans quel contexte ce commandement a été donné. C'est dans un contexte d'adoration où on sait que tout genou fléchira devant Dieu, tout. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tous les hommes sur la terre devront confesser que Jésus est Dieu, tous. Tout le monde fléchira le genou, mais les uns seront sauvés, les autres seront perdus. Et dans ce contexte, où on réalise la seigneurie de Jésus, Paul dit aux Philippiens, au chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, bon, c'est vrai, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, on pourrait dire non seulement à l'église, mais surtout à la maison. Travaillez à votre salut. On ne travaille pas à son salut, n'importe comment. Il y a un profond respect. La crainte, c'est une crainte respectueuse. Dieu l'a dit, Dieu le demande, Dieu le promet. Je dois en tenir compte. Travailler à son salut, ce n'est pas assister à une réunion, juste dire c'est intéressant ou pas, c'est utile ou je n'ai pas compris. Non, je veux travailler à mon salut, avec crainte et tremblement. Nous allons lire le témoignage, nous allons lire plusieurs témoignages, le temps que nous pourrons. Dans Exode, Genèse au chapitre 22, on voit un homme qui a beaucoup été utilisé par Dieu et qui, bien sûr, comme tous, va être éprouvé. Genèse chapitre 22. Le texte commence d'une manière très simple et c'est ce que Dieu peut permettre parfois. Dieu nous bénit. Est-ce que Dieu vous bénit? Dieu vous bénit. Pourquoi? Parce que vous êtes ses enfants. Mais parce que vous êtes ses enfants, Dieu vous éprouve aussi. Ça, c'est la vérité. Donc, Genèse 22, verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin. Il aurait pu attendre longtemps. Franchement, est-ce qu'on lui aurait pardonné d'attendre une semaine pour prendre une telle décision, oui ou non? Soyons honnêtes, on est là devant Dieu, on n'étudie pas pour parler d'Abraham, en vérité on étudie pour travailler à notre salut. Est-ce que ça vous aurait contrarié qu'Abraham attende un mois avant d'obéir? Bien sûr que non. Lui, il l'a fait de suite. De suite. C'est beau quand Dieu nous montre quelque chose et qu'on le fait de suite. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Donc il y avait quand même dans le cœur d'Abraham, une grande conviction. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Qu'est-ce que vous auriez répondu au fait, vous ? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre fils ? Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici, comme au début. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Regardez bien ce qui nous intéresse à nous. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Voilà, je voudrais que vous notiez ce verset pour ceux qui prennent des notes. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Regardez bien la suite, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, regardez bien maintenant où on en est là, suite à la crainte et à l'obéissance. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc si on résume le verset 17 et le verset 18, c'est « Je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix ». Ce n'est pas « Je te bénirai si ». Là, on est dans l'affirmation « Je te bénirai parce que tu as obéi ». Mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte à l'importance de la crainte de l'Éternel. Le respect des choses. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous le savez, il n'y a aucun respect. On croit, on chante, on danse, on exprime beaucoup de choses, mais il n'y a aucune crainte de Dieu. La crainte, c'est le commencement. Vous pourriez dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Vous savez, il est dit, on peut abréger, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il est dit ? Voilà, si quelqu'un manque de sagesse, c'est dans un contexte de l'épreuve en plus, où on ne comprend pas l'épreuve, donc c'est tout à fait normal que Dieu, dans son intelligence, il dit, vous ne comprenez pas l'épreuve ? C'est normal. Mais si quelqu'un donc manque de sagesse parce qu'il n'est pas capable de comprendre l'épreuve qu'il traverse, eh bien qu'il demande de la sagesse à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parce que les hommes, nous, on fait des reproches quand quelqu'un ne se comporte pas bien. Mais Dieu, il comprend très bien que dans l'épreuve, on puisse se louper, comme on dit. Mais à quoi ça servirait de demander la sagesse si on ne développe pas la crainte de l'Éternel, puisque la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On reviendra tout à l'heure dans le livre de la Genèse, certainement pour un autre texte. Mais regardez quand même, c'est important. Je ne veux pas me précipiter parce que j'ai tant et tant de choses à vous dire, je voudrais qu'on fasse les choses paisiblement, progressivement, on y reviendra s'il le faut. Mais mes frères et sœurs, la sagesse est liée à la crainte. La crainte est liée à l'obéissance. Tout cela se conjugue, il n'y a pas des tiroirs avec d'un côté la crainte, de l'autre l'obéissance, de l'autre le respect, etc. Tout est ensemble. Et regardez avec moi dans Proverbes au chapitre 2, du verset 1 à 5, c'est peut-être bien, puisque vous prenez des notes, que vous relisiez ces textes et que vous regardiez les verbes. Les verbes dans la Bible ont beaucoup d'importance, surtout quand ce sont des verbes actifs qui nous montrent les œuvres que nous devons faire. Regardez, Proverbes chapitre 2, regardez comment la sagesse s'obtient. Mon fils, si tu reçois mes paroles, c'est pas une question d'entendre, vous pouvez dire aussi ce que, j'en, de toute façon, ce que je vous dis, c'est biblique. Donc vous êtes en vérité, si vous êtes convertis, vous êtes tous obligés d'être d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. Si je passais l'heure à lire la Bible, personne ne pourrait dire, bon, c'est antibiblique. Mais le problème, ce n'est pas d'être d'accord. Le problème, c'est de commencer à recevoir. Ça ne rentre pas par une oreille pour sortir de l'autre côté. Ça rentre et ça reste. Je reçois, je le note, ce que j'ai besoin d'apprendre, qu'Abraham, l'obéissance d'Abraham, a prouvé qu'il avait la crainte de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'après, Dieu lui dit, parce que tu as obéi, je te bénirai. Vous savez, c'est une chose quand Dieu dit, si tu m'obéis, je te bénirai. Vous êtes d'accord? Mais quand Dieu dit à quelqu'un, parce que tu as fait ça, je te bénirai. Qu'est-ce que vous préférez? Que Dieu vous dise, si tu le fais, je te bénirai, ou parce que tu as fait ça, je te bénirai? Eh bien, la deuxième alternative, parce que tu as fait ça. Et vous avez vu la terminologie. Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne relis pas ça. Tellement je ne me sentais pas digne de lire ce texte où Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Avouez que c'est quand même, c'est Dieu qui parle. Même si on est des porte-paroles, avouez que nous sommes quand même que des hommes. Et reprendre des textes aussi forts, moi, la première fois, j'ai presque dit, non, moi, je ne relis pas ce texte. Je ne me sentais pas presque digne de lire ce texte. Vous vous rendez compte? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. C'est magnifique. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Et même nous, on est presque limite de le rapporter. Je le jure par moi-même. Parce que tu as fait ça, je te bénirai. Que le nom du Seigneur soit béni. Quel encouragement. Quel témoignage. Oui, il a reçu. Dieu lui a demandé quelque chose. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de pareil. C'était avant la loi. C'était avant que Dieu demande aux hommes de ne pas tuer son prochain, etc. C'était des choses que les païens faisaient. Dieu, dans sa préscience, a demandé ça à Abraham. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne demandera jamais à quelqu'un de tuer un autre homme. Vous me suivez? Si tu reçois mes paroles, oui, je veux ressembler à Abraham. Ce soir, je ne sais pas si je retiendrai tout, mais quand même, je peux travailler à mon salut. Avec beaucoup de respect, ce qu'on voit ce soir, c'est important, je veux recevoir. Regardez les autres verbes, si tu reçois, si tu gardes, ah, il faut que je le garde ce que j'apprends ce soir, c'est je veux le garder. Si tu rends ton oreille attentive, ce n'est pas l'oreille physique, c'est l'oreille spirituelle, c'est l'oreille interne, c'est l'oreille spirituelle de l'homme. Oui, c'est important, je dois l'entendre. Le mieux, c'est de le relire et de le relire jusqu'à ce que ça soit vraiment gravé. Vous savez, vous pouvez écrire à la craie. À la craie, vous mettez le tableau dehors, la première pluie, il n'y a plus rien. Quand Dieu dit je graverai ma loi dans le cœur, là, vous pouvez le graver, il peut pleuvoir, il peut faire n'importe quoi, ça ne partira pas. Et Dieu dit, je graverai. Il y a des gens, la parole de Dieu, elle n'est pas écrite à la craie, elle est gravée. Si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, ça passe aussi par l'intelligence, il ne faut pas rêver. Oui, si tu appelles la sagesse, oui, il y a un besoin, j'en ai besoin. Quand j'ai une épreuve, ben, j'ai plus envie d'aller à l'église. Oui, il y a un problème, c'est un manque de sagesse. Ça. Il y a des gens, moi, souvent, ben, tout le temps. J'ai une épreuve dans le cadre de la famille, dans le cadre du foyer, dans le cadre du travail, dans le cadre même de l'église. Et voilà, on en va tout balader. Non, Seigneur, je voudrais de l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Un trésor. Vous auriez des millions d'euros cachés dans le garage, sous la chape du garage. Une chape de 30 cm d'épaisseur, en béton armé. Mais voilà, on vous dirait, écoutez, on doit vous le dire, sous la chape, il y a une caisse d'un mètre cube avec de l'or dedans. Enfin, il faut quand même. Qu'est-ce que vous feriez? qu'est-ce que vous feriez? Ah, moi, je peux vous dire que je pense que je sais ce que je ferai. Qu'est-ce que vous feriez, vous? La même chose. Et il y a une notion quand même de dire, mais est-ce que je... C'est comme un trésor, la crainte de l'Éternel. Il y a des gens, ils ont été utilisés, on va le voir. Pourquoi certains ont été utilisés? Pourquoi d'autres n'ont jamais été utilisés? Eh bien, pour cette simple raison. Ils ont choisi d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est un choix. On le verra au travers des textes. C'est un choix. Noé a été choisi par Dieu parce que d'abord, Noé avait choisi dans une génération complètement corrompue. Tout le monde était corrompu. Toute la terre. Et bien lui, il avait décidé de marcher avec Dieu. Résultat, et bien Dieu l'a utilisé pour sauver le monde, même si c'est... Là, ça fait de la peine, il y a que Dieu a sauvé le monde au travers de Noé. Et il a condamné le monde aussi. Si tu la poursuis comme l'or, si tu la cherches comme l'argent, demander la sagesse à Dieu sans conjuguer avec la crainte de l'Éternel, c'est stupide, ça ne marchera pas. C'est pour ça que la prière de Jacques, si quelqu'un demande de la sagesse et qu'il ne l'obtient pas, c'est parce qu'il ne le conjugue pas avec la crainte de l'Éternel. La connaissance de Dieu est liée à l'obéissance et à la sagesse. Retenir ses commandements comme un trésor. Vous auriez un trésor, une fois on m'avait donné 6000 euros en liquide. Et je partais, il me fallait partir. Donc je les ai planqués vraiment. C'était pas pour moi, c'était pour l'Église. Donc je les ai planqués. Pour moi, je les aurais peut-être planqués, mais moins. Mais vous voyez, quand c'est des choses précieuses, on a besoin de protéger. Vous ne croyez pas qu'on aurait besoin de protéger? Quand je vois que des chrétiens lisent presque jamais la Bible, ce qu'ils entendraient ce soir serait vraiment délicat pour eux. Ouais. Retenir, incliner son oreille, c'est ça. Je fais attention. C'est sérieux, Dieu l'a dit, je le fais. C'est le contraire, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans l'illusion, la confusion, voilà, l'illusion. Comme il est dit, nous nous trompons nous-mêmes. Vous savez, quand Jacques dit, mais si quelqu'un écoute la parole, on va le lire. Jacques 1, 22, voilà l'inverse. On va lire maintenant l'inverse de ce qu'on vient de lire. Jacques, je préfère le lire plutôt que de vous le citer, Jacques 1, 22. C'est se tromper. Dans ce chapitre 1, à trois reprises, l'apôtre Jacques dit « Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. » On peut s'illusionner. Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est ça la séduction. J'écoute la parole, je crois la parole, mais je n'obéis pas à la parole, donc je me trompe. Et si vous êtes dans ce cas, vous êtes dans l'illusion, comme les chrétiens de la Odyssée, où il nous est dit qu'il disait, je crois que je suis riche et tu ne sais pas que tu es pauvre. C'est de l'illusion. Vous écoutez la parole, vous êtes d'accord, ah c'est bien, moi je suis d'accord. Ah c'est surtout pour l'autre, mais moi je suis d'accord. Eh bien vous êtes dans l'illusion. Vous vous trompez par de faux raisonnements. Quelqu'un qui garde la parole, c'est quelqu'un qui obéit à la parole. Et le résumé de ce que je vous dis, c'est que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne connaît pas Dieu. Les pharisiens connaissaient la loi par cœur. Et Jésus va leur dire, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Ils ne le connaissaient pas. Ce qui se passe, c'est que nous nous faisons une image de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui appellent Dieu papa, par exemple. Parce qu'ils ont humanisé Dieu. On va le voir au travers de l'exemple de Caïn, certainement. Regardez avec moi dans Ésaïe 29. C'est un des textes qui explique bien ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe 29, verset 13. C'est un verset très connu. Mais dans ce cadre de l'étude, il est encore plus puissant. Ça montre bien l'état de cœur de certaines personnes. Vous connaissez bien ce texte. Il indique bien ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. On chante, on loue, des lèvres, mais regardez ce qui est écrit. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « quand ce peuple s'approche de moi. Ah, on pourrait dire, tiens, le gars, il va à l'église, il va dans un lieu de culte, ça va. Regardez ce qui est écrit. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte, voyez, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La routine, le train-train, l'habitude, la religiosité. Je vais à l'église, parce qu'en allant à l'église, je pense être spirituel. Je chante, je connais même plein de cantiques par cœur, je connais des textes bibliques par cœur. Je me balade avec la Bible sous le bras quand je vais à l'église. Et Dieu dit, tout ça, ça peut être de l'illusion. Je n'ai aucune crainte. Et on voit vite en parlant avec les gens, même en parlant avec des pasteurs, si dans leur cœur il y a la crainte de Dieu, vraiment. C'est important la crainte, ça amène la bénédiction de Dieu. Vous avez vu, Abraham va appeler Dieu Jéhovah Jiré. C'est le premier qui donne ce nom à Dieu. C'est un des attributs de Dieu, un des plus beaux attributs de Dieu. Parce que bon, Jésus s'appelle le Rédempteur, le Conseiller, l'Admirable, etc. Il y a 150 attributs. Mais celui-là, c'est pas intéressant pour nous. Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Vous croyez que Dieu pourvoit à tous nos besoins? Mais quand un homme obéit, bien sûr, les gens, oui, je ne comprends pas, Dieu ne pourvoit pas toutes choses. Mais non, qu'est-ce que tu as dit? Toutes choses concourent au bien, ce n'est pas vrai. Et en plus, ce n'est pas vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne nous égarons pas en déformant la vérité. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Abraham n'a pas pu faire autrement que de donner un nouveau nom à Dieu, ce que nous n'en avons plus à faire, tellement il y en a. Jéhovah, j'irai, j'obéis, parce que j'ai la crainte de Dieu, j'ai le respect de Dieu. Dieu le demande, c'est sérieux. Je le jure, tu as fait ça, je te bénirai. Je crois que c'est une parole que Dieu pourrait accomplir dans la vie de chacun de nous. Je pense, quand je dis je crois, je sais que Dieu ne fait pas deux poids deux mesures. Et que ce que Dieu a dit à Abraham, il voudrait te le dire. Je sais que tu crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu là, du cinéma dans l'église. Mais quand tu es chez toi, comme on l'a vu tout à l'heure, du temps de Malachie, où ils n'arrêtaient pas de contester la parole de Dieu. Et mais vraiment, ils se permettaient de dire à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte quand on en arrive à contester avec Dieu? C'est la Bible des catégories. Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Abraham n'a pas dit à Dieu, mais tu plaisantes? J'ai attendu jusqu'à 99 ans, 100 ans pour avoir un fils. Tu m'as fait la promesse il y a 25 ans. Tu me le donnes. Et maintenant, tu me demandes de le sacrifier. Il faudrait savoir. Non, il n'a rien dit. Le lendemain matin, il l'a fait. Et mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte la bénédiction que nous obtiendrions si quand Dieu nous demande quelque chose, nous avions l'intelligence spirituelle de le faire. Quand Dieu te dit, mon frère, arrête de t'inquiéter. Si on était intelligent, on arrêterait de s'inquiéter. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Oui ou non? Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. C'est pour vous ennuyer que Dieu vous dit ça ou c'est pour vous libérer? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on se recharge? Eh bien parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Si on avait la crainte de dire, bon Dieu l'a dit, eh bien je le fais. C'est important mes frères et sœurs. Dans l'Exode, on en a parlé la dernière fois. Regardez, on va le faire. C'est des exemples. Moi je vous donne ces exemples pour que vous les méditiez. Ce n'est pas une étude biblique en vérité, c'est des exhortations. Regardez dans l'Exode au chapitre 20, les réactions des uns ou la réaction des autres lorsque Dieu parle. Et ça n'a pas changé. C'est exactement pareil. Je peux vous dire que je suis bien placé pour l'avoir vérifié. On en a parlé l'autre jour, mais j'y reviens quand même. Exode 20, 18. Exode 20, 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Regardez bien. à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez la bénédiction. C'est ça? Ah non. C'est pour que vous ayez... Est-ce que Dieu voulait les bénir en plus? Mais bien sûr, lisez la suite et vous verrez. Mais avant d'être bénis, il voulait qu'ils apprennent la crainte, le respect de Dieu. Afin que vous ayez sa crainte. Dieu nous éprouve, pas pour nous éprouver, pour que nous développions le respect de Dieu. Sa crainte, afin que vous ne péchiez point. Regardez le peuple. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, alléluia, de la nuée. Donc voyez, quand on n'a pas la crainte, on s'éloigne. Quand on a le respect de Dieu, on s'approche de Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu, il ne pouvait pas garder ses commandements. C'est pour ça que l'on voit plein de gens qui croient en Dieu, ils dansent, ils chantent dans les églises, mais ils ne gardent pas ses commandements. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et regardez avec moi dans le Deutéronome, un petit peu plus loin, au chapitre 5, verset 29. Enfin, ce texte qu'on va lire, je ne sais pas combien de fois, il est écrit. Mais c'est des beaux versets que nous devrions apprendre par cœur presque. Deutéronome 5, verset 29. C'est clair, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. C'est écrit en boucle dans toute la Bible. Regardez, Deutéronome 5, 29. Oh, en plus c'est Dieu qui fait un soupir. C'est un soupir, c'est bon, ça veut tout dire un soupir. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. Pourquoi? Pour me craindre et pour observer mes commandements. Afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. On parlait tout à l'heure qu'avant toute chose, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Quand je vois les chrétiens, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Et les chrétiens, à la place de prier pour ceux qui gouvernent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Ils râlent. Et voilà, et ils n'ont pas la paix. Mais vous relirez dans Timothée. S'ils avaient ce cœur pour me craindre, et moi je vois des chrétiens, oh oui, encore, et les impôts, ils vont nous assassiner avec les impôts. Bien sûr, mais on peut le penser, mais priez pour lui. Ne le maudissez pas, etc., etc. Ah, s'ils avaient ce même cœur. Un autre texte, Exode 19. On ne voit pas tout ça, mais quand on les met ensemble, vous allez voir que ça fait quand même réfléchir. Exode 19, verset 24. Il faudrait que vous le lisiez bien, ce texte. Exode 19, verset 24. L'Éternel lui dit, bon, il faudrait lire le contexte, mais je vous lis que ce qui nous intéresse. Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Tu monteras sur la montagne avec Aaron. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Aaron et Moïse reçoivent la parole pour la communiquer. On appelle ça dans l'Ancien Testament des médiateurs. Ils recevaient la parole et ils l'exposaient. Mais quand vous continuez de lire le texte, vous vous rendez compte que Aaron est redescendu. Pourquoi? Pourquoi Aaron est redescendu alors que Dieu avait dit, vous l'avez vu, tu monteras avec Aaron. Pourquoi? Eh bien parce qu'Aaron, il ne voulait pas rester dans la présence de Dieu. Aaron préférait se retrouver avec le peuple. C'est ça. Il avait plus l'amour des hommes que l'amour de Dieu. Il avait plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. La preuve, vous l'avez après, Exode 32. Regardez, alors qu'il aurait dû être sur la montagne, il est avec le peuple, il commence à s'impatienter, ils en ont marre, il commence à murmurer. Regardez les conséquences. Dieu savait ce qu'il faisait. Tu monteras avec Aaron. Aaron est avec le peuple. Et regardez bien, on va lire du verset 1 au verset 6, les conséquences. Quand un homme de Dieu n'est plus à sa place. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Dieu les a testés. Car ce Moïse, vous voyez ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, plutôt, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Qu'est-ce qu'il aurait, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Aaron? Voilà, soyez patient. Il va redescendre avec la parole de Dieu, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, il est à sa place, il va revenir, c'est un homme qui obéit, il va recevoir la parole et il va nous la communiquer. Regardez, regardez ce qui se passe quand on n'a pas la crainte de Dieu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un autel devant lui, il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça, pour faire des fêtes, on est tous prêts. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Aaron n'a pas la crainte de Dieu, il a la crainte des hommes et il va leur faire plaisir. Il va répondre à leurs désirs à la place de répondre à leurs besoins. Quand on a la crainte de Dieu, on s'occupe de nos besoins. Quand on a la crainte des hommes, on cherche à leur faire plaisir. Ils vont faire un vendeur, un vaudor, un dieu à leur image. Ils ont changé l'image de Dieu à une image comme les païens. Ils sortaient d'Égypte, ils avaient des veaux comme idoles, et bien ils vont faire un veau en or. Ils étaient sortis d'Égypte, mais ils sont restés idolâtres. Combien de gens donnent leur cœur à Dieu, mais ils restent idolâtres? C'est grave. Ils se font une image de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui appellent Dieu papa. Moi, ça me choque, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils se font une image de Dieu. Un Dieu humain, c'est archi grave. Un Dieu à leur façon. C'est pour ça que je vous disais, Caïn, regardez Caïn. C'est l'image. Voilà, Caïn, c'est le type. Voilà. Et pourtant, Dieu lui parle. Hein. Quand même, c'est quand même inquiétant. Regardez avec moi. Caïn est irrité. Bon, est-ce que ça peut arriver de s'irriter? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il ne faut pas rester dans cette irritation. Il faut déposer ça au pied du Seigneur. Verset 6. Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Vous voyez, Dieu s'intéresse à lui. Il s'approche de lui et il lui parle. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament. Surmonte le mal par le bien. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez, au début, c'était que de l'irritation. Et puis, ça s'est transformé en jalousie et en haine. Et la haine s'est transformée en meurtre. Regardez bien. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et qu'est-ce qu'il répond? Je ne sais pas. Alors, écoutez-moi. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. C'est la preuve que quand on ne connaît pas Dieu, on croit qu'il ne sait pas les choses. Vous voyez, on le compare à un homme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a menti à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on lui répond d'une manière superficielle. On lui ment. Dieu seul. Il a voulu rétablir le contact. Et lui dit, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il n'avait aucune crainte de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tué son frère. Quand on a la crainte de Dieu, je pense qu'on aurait dû dire, bon, mais Dieu m'a dit de ne pas mériter, Dieu m'a dit de ne pas être abattu, je vais dominer le mal, la prochaine fois, eh bien, je ferai un sacrifice comme Dieu le demande. Puisque le sacrifice que j'ai fait, ça ne lui plaisait pas, eh bien, maintenant, je vais faire ce que Dieu demande. En plus, qu'il est dit dans le Nouveau Testament à deux reprises, malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. Et croyez-moi, des gens qui suivent la voie de Caïn, il y en a quelques-uns sur la terre, même dans les églises. Des gens, par exemple, qui pensent qu'on peut être sauvé par les œuvres. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient qu'on est sauvé par les œuvres? Ben oui. Mais malheur à eux. Vous ne serez jamais sauvé par les œuvres, vous serez sauvé par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'en a rien à faire. Il entendrait ça, il dirait non, c'est M. Gault qui dit ça. Ce n'est pas M. Gault, c'est la parole. Et les gens qui n'écoutent pas la parole, quand il est écrit dans les Hébreux que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, les gens qui n'écoutent pas la parole, ils ne tomberont pas entre les mains du pasteur qui prêchait. Les gens qui n'écoutent pas la parole, ils tomberont entre les mains du Dieu vivant. Mais ça, les gens n'y pensent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Par contre, les chrétiens qui obéissent, ils tomberont dans les mains du Sauveur béni. Alléluia. La crainte de Dieu. Vous voyez, un Dieu à sa façon. Aaron, il a cédé. Il aurait dû être sur la montagne, il est redescendu. Il en avait marre, certainement, il est redescendu. Et il leur a fait un Dieu à eux. Et ils se sont levés pour se divertir. Et vous lirez la suite, et vous allez voir que c'est quand même tristounet ce qui s'est passé. Il désobéit. Alors, Caïn n'a pas la crainte de Dieu. Il ne le connaît pas. Il va errer toute sa vie. Il y a des chrétiens, ils errent toute leur vie. Toute leur vie, ils errent avec leurs pensées, leurs illusions. Ils rétrogradent, ils reviennent, ils rétrogradent. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, ça développe la sagesse et la bénédiction. Si Dieu le demande, c'est sérieux. Si Dieu me demande de pardonner, premièrement, je peux pardonner. Et il y a une bénédiction rattachée au pardon. Ah, mais moi, je ne peux pas pardonner. Si tu avais vécu ce que moi j'ai vécu, mais tu ne pardonnerais pas. Mais qu'est-ce que vous en savez, ce que les autres ont vécu aussi? On ne sait pas. Mes frères et sœurs, si Dieu nous demande de pardonner, tout le monde peut pardonner, quelle que soit l'offense. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde de ne pas mentir, de ne pas nous mentir nous-mêmes et de surtout pas de mentir à Dieu. En disant à Dieu, je ne sais pas. Vous voyez, Caïn traite Dieu comme un être humain. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et voilà, il va errer toute sa vie. Il s'est fait une image de Dieu. C'est ce qui se passe. Et dans les derniers temps, ça n'a pas changé. Regardez Romains. Je vais terminer avec cette pensée. On ira plus loin dans ce sujet. Il faut que vous le méditiez. Ce n'est pas des choses qu'on étudie comme ça. Regardez Romains 1, 21. Les gens ne sont pas soucieux de Dieu. Ils veulent la bénédiction, ils veulent un Dieu qui bénit, ils ne veulent pas un Dieu qui conduise. Ils veulent un Dieu juste par intérêt. Vous voulez un Dieu qui vous bénisse, vous voulez un Dieu parce qu'il est Dieu. Mais oui, c'est une question, une bonne question. Romains 1, 21, 22 et 23. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant, et ça descend, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Voilà comment les gens ont présenté Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, on en perd le bon sens. Voilà exactement ce que Dieu est en train de dire. Et on le voit dans Ézéchiel, il disait, Dieu ne voit rien. Dieu n'agissait pas. Donc, il disait, Dieu ne voit rien, Dieu n'y entend rien. Mais Dieu voyait. Alors prenons au sérieux les choses que Dieu dit. Dieu savait très bien où était Abel. Et si Dieu nous pose des questions, ne croyez pas que c'est pour nous ennuyer. Si Dieu nous pose des questions, c'est pour rétablir le contact avec nous. Nous avons besoin de communion. Alors ne soyez pas gênés par les questions que Dieu peut vous poser. Quand Dieu pose une question, soyons intelligents, mes frères et sœurs. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que tu as obéi, je te bénirai. Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qu'il doit faire. Et croyez-moi, même si les gens étaient hostiles, si Dieu veut vous bénir, il vous bénira. Et si Dieu ne nous exauce pas, plongeons nos regards dans la parole. Et Seigneur, montre-moi pourquoi tu ne m'exauces pas. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de ceux qui critiquent le gouvernement. Ne vous étonnez pas si vous avez perdu la paix.
Et je sais qu'au travail, il y a plein de gens qui vont... Mais vous dites rien. Dites rien, vous. Ne participez pas au péché d'autrui. C'est écrit ? C'est pas écrit. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui bénit. Toute grâce excellente, tout don parfait, ça descend d'en haut. C'est pas un homme qui bénit. On peut bénir les frères, les sœurs, mais c'est Dieu qui bénit. Il ne se trompe pas. Enfin, moi, cette parole, j'aimerais que vous pouvez la relire dans Genèse 22. Parce que tu as obéi, je te bénirai. Alléluia. Mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Il y a des gens qui lisent, ils ne savent même pas ce qu'ils ont lu. Et je n'ai pas dit ce n'est pas une question de mémoire, mais il y a quand même un minimum. Il y a quand même un minimum de lire avec respect les saintes Écritures. On demande à Dieu qu'il nous aide. Il nous aidera. Il nous aidera, frères et sœurs. Ce que Dieu te demande, mon frère, fais-le de suite. Notre Père, notre Dieu, il est écrit dans ta parole que ton intelligence n'a pas de limite. Nous le croyons, Seigneur. Tu ne te trompes jamais. Tu règnes au siècle des siècles. Et nous voulons, Seigneur, vraiment développer cette sainte crainte. Travailler à notre salut avec crainte. Accepter tous tes commandements comme des bénédictions. Vraiment, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes comme des privilèges pour aller plus loin avec toi. Tu as éprouvé Abraham, tu nous as éprouvés. Tu as béni Abraham, et tu nous béniras aussi. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'obéir à ta parole. Chaque jour, Seigneur, ici et à la maison, Seigneur, que nous ne soyons pas d'hypocrites, Seigneur, mais que nous soyons des hommes vrais, profonds, remplis de crainte, quand nous sommes avec tes enfants ou quand nous sommes avec des païens, que notre cœur soit rempli de ta présence. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.